Est-ce que vous m'entendez? Le micro marche. Bon. Si jamais ça ne marche pas, vous faites des signes. Parce qu'on vit souvent ça, vous savez, ça ne marche pas. Et puis quelqu'un vient vous dire après la conférence, vous savez, on n'a rien entendu. Bon, alors autant le dire tout de suite. Hein, bon. Voilà. Donc, merci à tous d'être là. Et je voudrais aujourd'hui, dans ce Vendredi Saint, nous ramener à la parole de Dieu, non pas d'abord à nos sentiments ou à nos émotions, mais même si elles sont là aussi, ils sont là aussi, bien sûr, mais à la parole de Dieu pour essayer d'éclairer ce mystère de la croix. Pourquoi faut-il que le Christ soit crucifié? Alors c'est une vaste question et je vais proposer une approche particulière, Bible en main. Voilà, donc je ne fais pas de prière inaugurale parce que nous allons plonger dans la Bible. Et pour moi, c'est ça la prière du chrétien. C'est d'abord la parole de Dieu. La parole de Dieu qu'on lit, qu'on médite et qui peu à peu nous habite. Alors, ce que je vais dire, ce n'est pas quelque chose de facile à dire. Hein. On peut très vite, avec la croix, sombrer dans les sentiments. C'est bien triste, Jésus, mais heureusement, il va ressusciter. Et puis, voilà, on évite en quelque sorte la question. On ne se heurte pas à la croix et à tout ce qu'elle signifie. Parce que ce n'est pas seulement le moment de la résurrection, de la crucifixion qui nous intéresse, mais c'est comment ça a été possible, comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et pour en arriver à ça, il faut qu'il y ait tout un ensemble qui se met en place, toute une logique qui habituellement n'est pas vue, une logique sombre, qui se met en place pour qu'on en arrive à la mort du juste. C'est très important parce que ça recoupe bien des expériences que les uns et les autres nous pouvons vivre. C'est-à-dire même si on ne se fait pas tuer, crucifier charnellement, pourrais-je dire, se faire flinguer par des collègues, se faire mettre de côté, y compris dans l'Église, pour des raisons d'ailleurs obscures, et bien d'autres choses, au travail, en famille, etc. Des crucifixions, il y en a beaucoup. Et peut-être il s'agit de comprendre comment on en arrive là. Hein, pour Jésus, c'est étonnant, puisque personne n'a parlé comme lui, comme le disent d'ailleurs beaucoup de personnes dans la Bible. Il a quand même fait des miracles, pas mal. Il a même ressuscité quelques morts, ce qui est quand même un détail important. Et pourtant, on le met en croix. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Et encore une fois, ça recoupe aussi un certain nombre de situations que tel ou tel ici présent ou ailleurs peut avoir vécu. Donner de son temps, donner de sa personne, donner de sa vie, faire pour le mieux. Et la récompense, c'est qu'on vous met au banc de la société, qu'on vous rejette d'un groupe et qu'on dit sur vous toutes sortes de mal pour des raisons pas claires. Et c'est ça que j'appelle la résurrection, les multiples formes de passion, de crucifixion que l'on peut vivre dans une vie. Donc les multiples formes de crucifixion qu'on peut vivre dans une vie. Donc c'est ça que je voudrais aborder. comment est-ce qu'on en arrive là, pourquoi, et y penser, encore une fois, ça éveille des sujets difficiles et dont on n'a pas spécialement toujours envie de parler. Hein, que Jésus meurt sur une croix, bon, ben on va l'adorer pieusement, avec les larmes aux yeux éventuellement, et une jolie prière. Mais il s'agit de comprendre, et c'est ça justement être chrétien, c'est entrer dans une compréhension qui n'est pas justement seulement humaine, mais à la lumière de la parole de Dieu, de cet éclairage que donne cette parole, et qui nous permet peut-être de comprendre des choses qui restent incompréhensibles et quelquefois volontairement incompréhensibles. « Ah ben si c'est, ça t'est arrivé, c'est de ta faute, c'est parce que tu es comme ceci ou comme cela, ben, faut t'en prendre qu'à toi-même. Hein » Et on pourrait dire ça à Jésus. C'est ce que disent d'ailleurs les gens qui l'invectivent quand il est en croix. Oh bah tu t'es déjà, tu en as sauvé d'autres, t'as qu'à te sauver toi-même. Et puis si tu en es là, c'est pas sans raison. Bon, donc on a vite fait de justifier l'abus, la crucifixion sous toutes ses formes de personnes au nom de slogans habituels. Oh bah c'est parce que il est ou elle est comme ça. Oh mais il en fait trop. Oh, il... Bon voilà, on trouve toujours. Et il s'agit à la lumière de la parole de Dieu d'aller plus loin, d'aller plus profond dans la compréhension. Donc, je voudrais entrer dans notre thème, dans notre questionnement. Et tout d'abord, remarquer que la Bible, en général, et les évangiles en particulier, surtout avec la personne du Christ, fait quelque chose qui n'est pas habituel. Bien souvent, quand il y a un problème de pouvoir et que quelqu'un fait les frais d'un pouvoir injuste, souvent on prend le parti où on entend les explications des puissants, de ceux qui ont causé la mort ou l'éviction ou le châtiment d'une personne, châtiment injuste. Et on entend souvent les grandes gueules dans ces cas-là. Ben, c'est parce que, ah oui, on a pris cette décision, parce que, etc. Et la Bible prend le parti, elle, d'écouter d'abord les victimes et de mettre le projecteur sur les gens qui souffrent dans un rapport de force. Vous voyez, non pas écouter d'abord les forts, mais écouter ceux qui sont les victimes des soi-disant forts. Et c'est assez important et assez intéressant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup, y compris de chrétiens, ne lisent pas la Bible. Parce qu'il faudrait partir de ceux qui souffrent, de ceux qu'on n'entend pas habituellement, et ça dérange. Parce qu'ils vont dire des choses et ça va perturber notre monde, où tout est en place, apparemment. Ça va perturber aussi notre gentillesse. Nous sommes tous gentils. On va devoir parler de méchants, de gens qui sont durs et qui ont toute une activité pour affirmer leur pouvoir et déconsidérer d'autres personnes. Et ça, on n'a pas envie, parce que quand t'es catho, t'es gentil, t'es bon, tout va bien. On est tous pareils, tout le monde est un peu méchant, un peu gentil. Pas du tout. Et la Bible va donner des coups de projecteur sur tout ça, et c'est pour ça que beaucoup ne la lisent pas. D'ailleurs, c'est une des raisons, parce que ça met le doigt, ou plutôt la lumière, sur ce dont on n'a pas envie d'entendre parler habituellement. On préfère sa fausse bonté habituelle. Oh, mais c'est comme ça. Et puis, que veux-tu y faire? Oh, puis il est comme ça. Oh, bah oui, monsieur le curé a fait telle chose contre les enfants. Mais oh, à part ça, il fait très bien le catéchisme. Attention. Hein, toutes ces choses qu'on a entendues jusqu'à plus soif pendant longtemps. Donc la mort du Christ, le seul juste qui va être déclaré coupable et mis en croix, c'est au cœur de tout ça. C'est une manière de mettre un coup de projecteur sur le monde comme il va. Et on n'a pas l'habitude, encore une fois, et on n'a pas envie de ça. Habituellement, on préfère tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est bienveillant. Mais non, la Bible va nous dire et mettre en lumière, il y a des tueurs, il y a des dévorateurs, il y a des exterminateurs. Ils sont promis au salut d'une manière ou d'une autre, promis au salut, mais en tout cas, sur cette terre, oui, il y a des tueurs et tout le monde n'est pas un tueur. Donc ça va demander le discernement, et c'est ça dont nous allons parler. C'est un concept biblique extrêmement important, hein, le discernement. Il y a tout un vocabulaire, notamment le mot « binna » dans la Bible, qui veut dire « choisir entre eux et entre eux » ou « faire la différence entre eux et entre eux ». C'est « binna » dans la Bible, le discernement. C'est un concept essentiel que quelquefois on a un petit peu perdu, justement au profit de « oh, on est tous pareils ». Non, discernement. Donc, arrivons à cette réalité du Christ crucifié, dont finalement toute la Bible parle. Hein, vous savez, dans la tradition de l'Église, on a beaucoup mis en lumière l'Ancien et le Nouveau Testament réciproquement, et il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament qui racontent comment le juste, celui qui est ouvert aux autres, ouvert à Dieu, va subir un châtiment. Hein, pensez dans la Genèse, à la dernière grande partie du livre de la Genèse, c'est Joseph et ses frères. Une belle famille, hein, 12 garçons et une fille. La fille sera violée d'ailleurs par un personnage, donc c'est une famille qui a ses problèmes. Et puis Joseph, l'avant-dernier garçon, est un peu différent des autres. Autant les autres s'intéressent à eux-mêmes, autant Joseph est ouvert à d'autres dimensions, à Dieu. Et il comprend que son père, Jacob, a hérité d'une promesse qui vient de Dieu et qu'un de ses descendants, et ce sera lui-même Joseph, devra porter à son tour. Qu'est-ce que c'est que cette promesse de Dieu qui nous guide? Et tout ça ne parle pas du tout à ses frères. Hein, et qui vont décider un jour de tuer Joseph. Vous voyez, c'était l'époque où tout allait très bien dans la famille autrefois, hein, mais il y avait quand même des petits dysfonctionnements. Hein. Tous les gens qui disent aujourd'hui « Ah, la famille, c'est fini », ça fait longtemps que c'est un peu difficile quand même. Hein. Vous demanderez d'ailleurs à Caïn et Abel ce qu'ils en pensent, les deux premiers frères de l'histoire. Donc, ceci pour dire « c'était mieux autrefois », faut voir hein, quand même. Donc, les frères de Joseph vont vouloir tuer leur frère, et puis comme ils sont quand même gentils, ils vont se dire au dernier moment, non, on ne peut quand même pas le tuer, donc on va le vendre comme esclave. Ah, bon, ben voilà, des gentils frères. Donc, ils vont vendre Joseph comme esclave, et qui va partir par différents chemins jusqu'en Égypte, où il va être justement esclave d'un grand personnage. Mais voyez comment on va éliminer celui qui, dans un groupe donné, le groupe des frères, des fils de Jacob, comment on va éliminer celui qui a une autre dimension, qui est ouvert à autre chose. Vous savez, Joseph raconte à ses frères ses songes, c'est le chapitre 37 de la Genèse, et on sent que ces songes viennent de loin. C'est pas seulement le cerveau de Joseph qui fonctionne ou qui est en ébullition, ils viennent de Dieu, ils montrent quelque chose, et Joseph raconte à ses frères ses songes, et ça a contribué beaucoup à le disqualifier pour un groupe qui, jusque-là, faisait corps. Hein, on est tous du même groupe, de la même fratrie. Il n'y en a pas un qui doit avoir un pied ailleurs que dans la fratrie. Ben, Joseph, si. Joseph, Dieu, ça l'intéresse. Et puis ce que Dieu peut faire dans la famille, et puis la promesse que Dieu a faite à l'ancêtre Abraham et qui s'est transmise de génération en génération, oui, ça intéresse Joseph. Et donc, les frères sont tout à fait en alerte et veulent l'éliminer. Il y a même un verset où le père de ses frères, hein, Jacob, dit à ses fils, mais arrêtez de vous regarder les uns les autres. Ah, voilà, c'est ça. Le groupe, c'est là où on se regarde les uns les autres. Et puis, rien d'autre que nous. Et s'il y a un petit gars dans le groupe qui a une illumination, il est bizarre et il va falloir, d'une manière ou d'une autre, l'éliminer. Alors, c'est ce que la Bible va raconter incessamment. Incessamment, elle va raconter ces histoires de les humains ensemble. Comment ça marche? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chapitre très, très beau dans la Bible qui est le livre de la sagesse. C'est dans l'Ancien Testament, c'est le livre le plus récemment écrit de l'Ancien Testament. Et il faut lire le chapitre 2, notamment la fin du chapitre 1, et puis le chapitre 2 du livre de la sagesse. Ce chapitre dit exactement ce dont je voudrais donner écho aujourd'hui. Le chapitre 2 présente, et la fin du chapitre 1 donc, présente un groupe humain, on ne sait pas où, mais peu importe. Alors j'ai que la traduction de Chouraki que je viens de prendre et je ne sais pas s'il y a le livre de la sagesse, tant pis, on va faire de mémoire. Et ce chapitre 2 donc présente un groupe humain qui vit en autarcie, il vit sur lui-même, et puis il y a un gars qui n'est pas comme les autres. Il est intéressé par plus que le groupe. Il sait que la vie vient de plus loin que nous, que la vie vient de Dieu, qu'elle est donnée par Dieu, qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas mettre la main sur les autres. Et le groupe est très perplexe face à ce personnage et se dit mais qu'est-ce qu'il a? Il pourrait profiter de la vie et ils en profitent. Ils vont jusqu'à l'abus hein, dans ce chapitre 2 du livre de la sagesse de Salomon. Et l'autre, le juste, comme l'appelle le livre de la sagesse, n'est pas d'accord avec cette manière d'être au monde, de mettre la main sur les autres pour son profit, de s'affirmer comme groupe tout puissant dans l'endroit où on est. Non, ça ne lui va pas, parce qu'il sait que la vie vient de plus loin, il sait qu'il y a un Dieu qui a créé les humains tous égaux et pour le bien et pour la vie. Et donc, il ne trouve pas sa place et il ne parle pas la même langue. Il parle bien sûr la même langue, mais ils ne disent pas les mêmes choses. Hein, et ça, dans la Bible, c'est très courant. Hein, des gens qui ont la même langue, mais qui en fait ne parlent pas la même langue décisive, la langue intime, la langue, est-ce que vous parlez la langue de la vie ou la langue du pouvoir, de la mainmise, de la mort finalement. Et donc, c'est ce groupe dans le chapitre 2 du livre de la sagesse va vouloir mettre à mort ce juste qui est, comme ils le disent eux-mêmes, il est pour nous un signe de contradiction. Ah ben oui, c'est pas parce qu'il l'a voulu, il y a une certaine manière d'être au monde qui contredit ce qui se passe en général. J'ai connu des gens comme ça pour qui, dans une entreprise, c'était pas le profit à tout prix qui les intéressait, mais aussi la présence des autres et leur bien-être. Et ils se sont fait mettre dehors rapidement. Et toute la Bible nous raconte ça sans cesse. Par exemple, si vous lisez les prophètes, vous verrez dans Jérémie, dans Ézéchiel, ce sont des prophètes qui disent « Mais notre société, les gens qui nous gouvernent et qu'on entend le plus, n'arrêtent pas de dire « Tout va bien, tout va bien. Shalom, shalom. » Mais non, il n'y a pas de shalom. Tout va très mal dans notre société. Et les prophètes sont toujours des gens qui viennent dire « Attention, oui, les affaires ont l'air de tourner, mais... » Il n'y a peut-être pas que ça dans la vie. Si vous lisez le psaume, alors je ne sais plus si c'est 72 ou 73, je vais vous retrouver ça tout de suite. C'est le psaume 73 dans nos Bibles habituelles. Qui est aussi un très beau psaume, un très beau texte là-dessus. C'est-à-dire, c'est un psaume qui va présenter avec beaucoup d'ironie. Vous savez que dans la Bible, on se moque souvent des puissants. Il y a souvent la fibre ironique hein, dans la Bible, que j'aime beaucoup pour ma part, parce que ceux qui vous tiennent à dragée haute, il faut quelquefois s'en moquer un peu pour qu'ils redescendent, comme le dit la Vierge, vous savez, dans le Magnificat. Ils renversent les puissants de leur trône. Quand tu as le cul par terre, ah, tu rejoins un petit peu le monde des humains et tu mets un peu ta gloire, ta gloriole en sourdine. Bon, ça n'arrive pas toujours. Hein. Donc le psaume 73, c'est un psaume qui va mettre en lumière, donc de manière assez... mais comme une caricature politique dans les journaux. C'est un psaume qui va mettre en lumière... ceux qui sont puissants, alors ils sont en groupe, ils ont de très beaux habits, ils ont des décorations, etc. Et puis, comme on le dit au verset 9, psaume 73, 9, leur langue va jusqu'au ciel et elle déambule sur la terre. Ça veut dire on n'entend que. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Il y a de paroles que eux. La description du monde, l'interprétation des événements, c'est eux qui la donnent. Et le psalmiste, le gars qui écrit le psaume, dit « Ben moi, je suis pas trop d'accord. » Et alors il dit au début, ce psalmiste, « J'ai failli entrer dans leur jeu parce que quoi faire d'autre ?» Enfin, tout le monde les suit. Hein. C'est un psaume génial, le psaume 73. Il éclaire exactement tout ce que j'essaie faiblement de dire. Il y a tous les puissants qui rassemblent tout le monde autour d'eux, qui donnent la doctrine officielle, la version officielle, les mots qu'il faut employer, et puis qui montrent leur puissance. Et puis, il y a quelques personnes autour, comme le gars qui écrit le psaume 73, qui dit « Mais j'ai failli, comme tout le monde, me mettre avec eux, mais non, je ne peux pas. Comme il le dit, « Seigneur, j'aurais trahi la race de tes enfants. » Ah, c'est beau, ça. C'est-à-dire, je n'ai pas les arguments tout de suite pour m'opposer à eux, mais je sens que ça ne va pas, que ce n'est pas ça la vie, que ce n'est pas ça que j'ai envie de vivre. M'agglomérer un groupe qui a toujours raison et qui manifeste son pouvoir, non, ce n'est pas ça. Alors le psalmiste dit, j'ai failli y aller, c'est le premier verset, et puis non, je me suis écarté. Alors il décrit tout ce système, ce groupe imposant, et il dit « Je suis allé devant Dieu au temple, et là j'ai compris ». J'ai compris que c'est tout un système qui ne vient pas du tout de Dieu, c'est une manifestation de puissance humaine. Et parce que j'appartiens à Dieu, parce que j'appartiens à cette autre réalité, et en fait à la vraie réalité, si l'on ose dire, je ne vais pas entrer dans ce monde. Alors, pour lui, il ne dit pas ce qui s'est passé, il dit qu'il a beaucoup souffert de cette situation, mais dans d'autres textes, celui ou celle qui s'écarte du groupe ainsi compris, c'est-à-dire un groupe de pression, un groupe de puissance qui ne connaît que lui-même et veut s'imposer et imposer sa parole, dès que vous manifestez que vous n'êtes pas d'accord, la vie va être dure pour vous. Et c'est ce que décrivent beaucoup de textes bibliques de l'Ancien Testament, Joseph et ses frères. Je n'appartiens pas entièrement à votre groupe familial et j'ai une appartenance ailleurs, de Dieu, qui vient de Dieu, et ça, ça ne plaît pas. Le psaume 73, qui décrit une réalité sociale, appartenir au groupe des puissants du moment, difficile. Et puis, tous les évangiles vont nous raconter ça. Jésus et ses disciples, ça détonne. Pourtant, ils sont pieux, ils vont à la synagogue, mais ils ne sont pas comme nous, et même, ils nous mettent en cause, Jésus surtout, qui n'a pas la langue dans sa poche. Donc vous voyez, on est dans la Bible incessamment dans cette ambiance, c'est-à-dire, est-ce que quand on se réunit, nous sommes un groupe de pression qui ne connaît que soi-même, même pour des raisons religieuses. On peut faire un groupe religieux, on prend le bon Dieu comme garantie, et puis on maintient la pression sur tout le monde. Ou bien est-ce qu'on est finalement les mains nues, les mains ouvertes, parce que la parole vient de Dieu, parce que il y a peut-être le groupe auquel j'appartiens, mais il y a aussi des gens qui viennent d'autres lieux, d'autres, et qui ont une autre façon de parler, qui ont une autre façon quelquefois de comprendre Dieu. Alors ça ne veut pas dire que tout est permis, tout est ouvert, etc., etc. Ça veut dire, est-ce que on est avec son discernement qui vient de Dieu, la bina? Est-ce qu'on est prêt à aller dans d'autres périmètres, dans d'autres espaces que celui auquel on est habitué? Et est-ce qu'on est prêt aussi de regarder le groupe habituel auquel on appartient en se demandant est-ce que c'est devenu un groupe de pression qui n'accepte rien d'autre que lui-même et son langage, ou bien est-ce que ça reste un groupe qui s'interroge, qui parle, qui accueille éventuellement même des gens qui ne sont pas exactement de son bord. Vous voyez ? Et tous les évangiles, ça va être ça. Qui est ce Jésus ? Ah bon, c'est bien, c'est un maître, il a des disciples. Et puis, peu à peu, on invite Jésus à droite, à gauche. Si vous lisez le chapitre 7 de l'évangile de Luc, vous verrez ça. Un jour, Jésus est invité avec ses disciples par un groupe de pharisiens qui sont dans la ligne du parti, si j'ose dire, in der Parteilinie, et qui invite Jésus et les siens un peu pour voir ce qu'ils disent, et notamment ce Jésus. Et assez vite, ça va être tendu. Jésus dit à la personne qui l'accueille, mais peut-être tu ne comprends pas bien ce que je dis, ce qui est étonnant pour cette personne, et il lui donne une petite parabole toute simple. Et voilà. Et puis en plus, il y a une femme qui arrive, qui fait irruption dans le groupe et qui vient répandre du parfum et des larmes sur les pieds de Jésus. Alors là, c'est fini, vous êtes grillés. C'est autrefois comme aujourd'hui ailleurs, enfin ça m'est peu arrivé personnellement, mais une femme qui vient répandre larmes et parfums sur vos pieds dans un groupe d'hommes qui est là pour voir si tout est en ordre, ça a discrédité complètement Jésus. Alors la tension se fait. Vous voyez, un personnage qui dit les choses autrement, qui est ouvert à cette présence de Dieu, inspirante au quotidien, et qui laisse s'approcher d'autres personnes que celles répertoriées de son groupe. Vous n'êtes pas bien en cours dans des cas comme ça. Vous voyez ? Et les évangiles vont sans cesse raconter des choses comme ça. Souvenez-vous du chapitre 15 de l'évangile de Matthieu. Jésus parle longuement des questions de pureté avec les pharisiens qui sont fermes dans ce qu'ils disent, et Jésus, comme toujours, ce qu'il dit ne plaît pas. Et au bout d'un moment, c'est comme s'il disait, c'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait le dit, l'exprime, après avoir essayé de parler des questions de pureté rituelle avec les Juifs, il part dans territoire impur chez les païens du Nord au Liban. Et c'est là que va venir une cananéenne, donc une étrangère, pas du tout de la nation juive, et que Jésus va admirer. C'est un texte magnifique, et Jésus va lui dire « Grande est ta foi ». Vous savez que Jésus est agaçant aussi pour ça, parce qu'il ne dit jamais que les croyants d'Israël ont la foi. C'est toujours des païens pour Jésus qui ont la foi. Le centurion romain, la cananéenne qui vient, et d'ailleurs que les disciples voulaient expulser tout de suite. Vous voyez, ils ont dû faire du chemin aussi, les disciples, pour se mettre au diapason du Christ. C'est-à-dire ce Christ qui ouvre des portes, qui ne parle pas comme tout le monde, qui laisse... C'est pas que tout est possible, hein. Il a un enseignement précis, mais tellement nouveau, tellement... qui fait accueil à tellement de personnes et de possibles que les gens ne s'y retrouvent plus. Donc, c'est dans cette ambiance qu'on va comprendre mieux la croix, qui est l'expression que donne le Nouveau Testament dans le contexte de la domination romaine, etc. C'est l'expression que l'on donne dans le Nouveau Testament à une réalité qu'on a bien souvent vue dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire le juste qui porte une parole qui vient de plus loin que lui, une parole qui va... ouvrir le groupe, qui est censé ouvrir le groupe, dire du neuf, montrer des aspects nouveaux de Dieu et de ce que Dieu propose. Dès qu'une personne comme ça est apparue, dès l'Ancien Testament, il a eu des problèmes. Par exemple, je prends un exemple célèbre, c'est le prophète Jérémie, et notamment les chapitres 28 et 29. On sent que Jérusalem va être prise. Et la version officielle des bons croyants, c'est de dire « Non, non, elle ne sera pas prise. » Alors, ils sponsorisent un prophète à eux qui dit « Il va y avoir quelques problèmes, mais ça va durer que 2 ans. Et le roi va prendre un peu nos trésors qu'on a au temple, mais il va les rendre très vite et tout va aller très bien. » Et Jérémie entend ça et il dit « Amen, cher collègue, si ce que tu dis arrive, mais je ne pense pas du tout que c'est comme ça que ça va arriver. Ils vont prendre tous nos trésors, ceux qui sont au temple, et ils vont emmener en déportation à Babylone toute une partie de la population. Et ça ne va pas durer 2 ans, comme le dit le collègue, dit Jérémie, ça va durer au moins 70 ans. » Et évidemment, vous avez un prophète qui vous dit « Tout va aller bien, ça ne durera que 2 ans, ça va être un peu dur, mais tout va s'arranger. » Et un autre, Jérémie, qui dit « Non, on en prend au moins pour 70 ans et une partie de la population va partir à plusieurs centaines de kilomètres d'ici et le temple va être réduit en ruine. » Qu'est-ce que vous préférez entendre ? Le premier prophète qui dit exactement ce qu'on a envie d'entendre. Et il fait carrière, ce mec. Et puis Jérémie, Bah non, Jérémy, il est toujours repoussé. On va le mettre au trou d'ailleurs. Voilà. En fait, le prophète, le premier qui s'appelle Anania, qui a dit ce qu'on voulait entendre, il va mourir dans l'année. Bon, comme ça, il y a un imbécile de moins en quelque sorte. Mais le prophète, je dis ça parce que ça agace peut-être, etc. Mais c'est un peu le ton quand même qu'on a dans la Bible et que dans le livre de Jérémie, il y a des choses comme ça. Et Jérémie ne se contente pas d'annoncer quelque chose de difficile, il va expliquer. Et ça, c'est toujours important aussi. C'est-à-dire, on ne parle pas ici de petits gars ou de petites dames qui viennent et qui disent des choses sur Jésus, puis qui se font mettre de côté. Le juste dans la Bible, c'est toujours celui qui a compris quelque chose de Dieu, qui a compris quelque chose de Dieu qui s'adapte à notre situation. Et donc Jérémie va dire, non, les ennemis vont prendre la ville, vont la détruire, Jérusalem, et vont emmener en déportation à Babylone toute une partie de la population. Deuxième épisode, Jérémie va expliquer. Et on voit qu'un prophète, un juste en général, mais le prophète Jérémie en particulier, c'est pas quelqu'un qui a des révélations comme ça nuageuses. C'est un bon spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient de son époque. Il suit les informations, il comprend. Et avec la lumière de Dieu, il a une compréhension de la situation qu'on est en train de vivre. Et il dit au peuple d'Israël, réuni à Jérusalem, donc, ça ne va pas aller, nous ne sommes pas assez forts pour résister aux ennemis babyloniens de notre époque. Ils vont prendre la ville et ils vont faire partir toute une partie de la population, comme ils font toujours. À Babylone, quand on prend une ville, on déporte une partie de sa population, c'est comme ça depuis des siècles. Donc Jérémie explique ça et il dit aux gens, ça sera très bon pour vous finalement, ça sera terrible, etc., mais ça sera plutôt bien, parce que ici à Jérusalem vous aviez un temple, mais vous n'y veniez jamais, vous préfériez adorer d'autres dieux et d'autres divinités que Dieu. Là, quand vous n'aurez plus de temple, vous n'aurez plus vos maisons, vous serez à 500 km d'ici ou plus, ben vous n'aurez plus que Dieu. Et ça sera le moment de le retrouver, l'occasion de le retrouver enfin. Et c'est très intelligent, c'est pas Dieu vous punit, tout ça. Non, il vous offre cette possibilité, en n'ayant plus vos normes et vos balises habituelles, de le retrouver, lui, Dieu, comme seul qui peut vous sauver, vous accompagner et vous parler dans le temps d'épreuve qu'est cette déportation dans un pays lointain. Et bien sûr, il va se faire mettre au trou. Mais il a compris quelque chose et il montre ce que c'est qu'un juste ou une juste dans la Bible. C'est quelqu'un qui non seulement se démarque des autres, mais c'est quelqu'un qui comprend. S'il agit ou s'il dit ce qu'il dit et s'il fait ce qu'il fait, c'est parce que c'est au nom d'une démarche profonde qui annonce, c'est le cas de Jérémie, ce qui va se passer. Non, n'essayez pas de résister, n'essayez pas de dire le temple va rester debout. Non, non, il va être renversé et vous allez partir loin comme prisonnier pendant 2-3 générations. Donc préparez-vous à ça et c'est ce qui va être bon pour vous. Et de fait, quelques générations après, c'est le début du petit livre de Baruch, les descendants des déportés à Babylone sont les plus croyants qui existent. Et ils envoient même de l'argent à Jérusalem, à ceux qui ont pu rester à Jérusalem, pour qu'on fasse des sacrifices pour eux, pour honorer Dieu. Et donc c'est les descendants des déportés à Babylone qui vont recevoir la meilleure formation de leurs parents. Ils ont compris, c'est les plus pieux, si vous voulez, 70 ans après, que ceux qui sont restés à Jérusalem et ont continué leur petit train-train. Donc voilà, beaucoup de choses à dire là-dessus, et vous comprenez que la personne ou les personnes qui disent la vérité, qui une vérité qui se démarque de ce que l'on a envie d'entendre ou de ce que l'on a, comme on le dit quelquefois dans nos milieux, toujours dit comme ça, ceux qui apportent un éclairage nouveau, une façon différente de se placer dans un monde donné, ces gens-là connaissent beaucoup de problèmes, mais ils ne peuvent pas faire autrement et ils ne peuvent pas dire autre chose que ce qu'ils font et que ce qu'ils disent, parce que ça vient de plus loin qu'eux, parce qu'ils comprennent cette parole venue de plus loin et qu'elle est adaptée à ce que les gens qui les entourent ont à vivre, mais ils sont en général mis dehors parce que non, c'est nous qui savons ce qu'il faut faire, c'est nous qui avons la vérité, c'est notre groupe, c'est notre milieu qui a raison. Et toute l'histoire de Jésus, mais toute l'histoire que raconte la Bible depuis le début, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire le porteur de vérité ou les porteurs et porteuses de vérité, ceux qui ont une pensée nourrie à d'autres milieux que leur milieu habituel, une pensée qui vient de Dieu et qu'ils ont recueilli, développé, médité et qu'ils peuvent exprimer, ces gens-là, en général, ne sont pas du tout acceptés, bien plus, ils sont rejetés d'une manière ou d'une autre. Et la croix du Christ, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire, celui qui... Enfin, c'est quand même étonnant, si vous lisez un évangile, Jésus a ressuscité des morts, il a guéri des malades, il a multiplié des pains, il a parlé comme personne n'a parlé, il a fait des disciples et les foules venaient l'écouter, et résultat, il est mis à mort, bien sûr. Pourquoi ? Pour ça. Parce que sa manière d'être, sa manière de parler, la parole qui l'habite, et comme le dit l'évangile de Jean, cette parole qu'il est lui-même, ne passe pas. Elle n'est pas dans les normes étroites dans lesquelles on l'avait mise. Les cases explosent en quelque sorte, et ça, c'est impossible. Et c'est vrai que Jésus, si vous écoutez, c'est quand même surprenant. Les paraboles ou les rencontres qu'il fait nous emmènent vraiment ailleurs. J'ai dit tout à l'heure, Jésus parle de la foi. Quand il parle de la foi, c'est pour désigner des païens, le centurion romain ou la cananéenne, enfin, qui n'ont rien à voir avec Israël, avec la tradition du Dieu unique, tout ça. Et il dit à chacun d'eux, grande est ta foi. On sent que ces jours sont comptés. Et il ne le dit pas comme ça. Et ça, justement, ça nous emmène dans qu'est-ce que c'est que la foi ? Est-ce que c'est la répétition de choses connues ? On ne les vit pas vraiment, mais l'essentiel, c'est de les répéter. Et puis voilà, c'est le monde, c'est comme ça, on a toujours fait comme ça. Ou bien, est-ce que c'est une certaine disposition de l'être vis-à-vis des autres ? Et parmi ces autres, il y a cet autre connu qui est Dieu, mais que quelquefois les païens eux-mêmes ne connaissent pas comme tel. Mais il y a quelque chose en eux qui a compris. Et voilà. Donc, ça veut dire que Jésus va mettre en lumière tout ça, et c'est pourquoi les évangiles citent beaucoup l'Ancien Testament et notamment les psaumes. Si vous lisez les psaumes, tout ce que je dis là, c'est dans les psaumes. Les psaumes le disent depuis le début. Le psaume 5, le juste est là, mais autour de lui, comme il le dit, il y a ses amis dont la bouche est un sépulcre béant. Ça veut dire qu'ils sont là, ils parlent, mais on sent qu'ils ne sont pas contents parce que le juste est en train de leur dire quelque chose qui n'appartient pas à leur monde et à leurs paroles. Et donc, ils font les beaux parleurs, hein, c'est ce que dit le psaume. Hein, leur langue semble être tout en miel, mais leur gorge, c'est un sépulcre béant. Donc, ils vont vous avaler et sans demander votre reste. Hein, et donc, dans les psaumes, vous verrez que justement là, dévorer le juste, ça vient tout le temps. C'est un thème omniprésent, pas seulement dans les psaumes. Vous savez, c'est pas pour rien que Jésus va donner son corps à manger. Hein. C'est comme si on disait, bah, jusqu'ici, manger le corps, c'est offensif. C'est ceux qui sont dans leur monde et qui ne peuvent pas supporter que quelqu'un dise autre chose qu'eux-mêmes, et ils sont là prêts à le dévorer. Alors, il y a le retournement de la dévoration, une dévoration pour le bien, pour la vie, qui est le corps du Christ. Vous voyez, le Christ va s'installer dans tout ce qui est le plus terrible et que le monde a inventé, manger les autres, d'une manière ou d'une autre, pour en faire de la vie. Mais ceci pour dire que, dans les textes bibliques, dans les psaumes en particulier, je vous conseille vraiment de les entendre, de les prier, de les dire. C'est en les disant qu'on entend, hein, ce qu'ils disent. Ce thème de dévorer revient tout le temps. Psaume 27, verset 2, « Je suis au milieu de lions qui veulent dévorer ma chair. » Bon. Parce que le psalmiste a quelque chose à dire qui ne plaît pas. Le psaume 57, « Je suis couché au milieu de lions ». Et apparemment, c'est des lions qui ont faim. Le psaume 59, « Je suis au milieu de chiens, au milieu de lions, de, etc. » Il y a aussi tous ceux qui veulent dévorer la chair et boire le sang. Hein, il y a toute une figure vampirique que j'ai beaucoup travaillée pour ma part dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire une manière de décrire justement ceux qui sont dans leur monde, dans leur parole fermée, et il ne faut rien toucher de leur monde. Dès qu'on touche à quelque chose, dès que quelqu'un vient parler autrement que, comme on dit dans leur groupe, ils sont prêts à tuer, à égorger, alors d'une manière métaphorique, comme on peut le dire. Mais enfin, Jésus en croix, c'est pas métaphorique. Hein. Ils vous prennent la personne pour la tuer. Alors, la tuer... Mais, et c'est ça le mystère que nous célébrons, c'est-à-dire le porteur de vérité, le porteur de paroles vraies, d'actes vrais, et c'est-à-dire d'actes qui donnent la vie, de paroles qui donnent la vie, on ne peut pas le tuer. C'est ce que Jésus dit tout le temps. Il parle, vous savez, d'Abel, le premier meurtre de la Bible. Jésus se situe à un moment, c'est dans l'évangile de Luc, je crois que c'est le chapitre 16, dans cette continuité d'Abel le juste, hein, celui qui avait une attitude qui n'a pas plu à son frère parce que, justement, Abel était tourné vers Dieu et ça n'a pas plu à Caïn. On est dans notre monde ici et puis je cherche le pouvoir. Ben, si ton frère a une toute autre manière d'être, on le tue. Voilà. Et donc Jésus se place sans cesse dans la continuité de tous ceux qui sont venus avant lui, hommes et femmes, et qui ont essayé de dire une parole qui se démarquait de la parole ambiante, qui ont essayé de montrer qu'ils avaient une appartenance autre que l'appartenance exclusive à un groupe de pression humain. Tous ces gens-là ont eu en général des problèmes. Et nous connaissons, enfin, beaucoup ici peuvent raconter des histoires de vie, au boulot, en famille, où il y aurait quelque chose comme ça. C'est toujours la même trame, c'est-à-dire dire... ou être situé dans une famille, dans un groupe humain quelconque, d'une autre manière que les autres, avec cette ouverture à de l'autre, à une parole qui n'est pas seulement la parole du groupe, à une façon de faire ou d'être qui n'est pas seulement de ramener toujours tout à nos normes, à nous. Ça ne veut pas dire accepter tout, etc. Vous l'avez compris. C'est, mais c'est cette, cette angoisse pour certains qu'apporte la personne ou les personnes qui sont ouverts à d'autres dimensions qu'eux-mêmes, d'autres dimensions de vie. Et je crois vraiment donc que ces jours saints célèbrent ça, mettent en lumière ça. Hein, celui qui parle, celui qui guérit, qui donne, qui dévoile un Dieu et un Père aimant, qui parle de l'Esprit qui va venir pour nous habiter, celui-là met un vent de liberté, donne un relèvement à des gens qu'on ne voulait pas voir dans nos milieux. Pensez dans l'évangile de Luc, le chapitre 23, Jésus est en croix. Bon, on se dit maintenant, il va se calmer. Ben non, il y a un type à côté de lui qui lui parle et Jésus lui dit, aujourd'hui, tu es avec moi au paradis. On a envie de lui dire, il faut d'abord, parce que s'il est en croix, et le type le dit d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien, moi, que je suis en croix, mais toi, pourquoi ? Donc apparemment, c'est pas un enfant de cœur. Hein, et Jésus lui dit, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire a eu 10 secondes de vie chrétienne, enfin c'est pas du tout les formules qu'il faudrait employer, mais il a compris quelque chose de Jésus, de qui était Jésus, il a compris quelque chose en ce moment, dernier moment, et aussitôt Jésus, aujourd'hui avec moi au paradis, santo subito, et celui-là il est vraiment sûr. Je ne veux pas dire que d'autres ne le seraient pas, mais là, de la bouche de Jésus, voilà. Donc, ça veut dire, voyez, et ça dérange certaines personnes. Hein. J'ai prêché un jour au pèlerinage du Rosaire à Lourdes, et j'ai parlé de la Vierge, comment elle se nomme elle-même. Elle se nomme servante, et c'est très important, et c'est profond, c'est pas juste un petit nom comme ça pour montrer qu'elle est humble et pas fière, non, non, c'est très complexe, très riche, ce mot de servante. Et un petit groupe de chrétiens, sans doute de bon ton, m'ont envoyé un diacre qui m'a dit, je viens au nom d'un groupe vous dire que nous ne sommes pas contents, vous avez mis en lumière Marie comme servante, mais Marie c'est une reine. Alors je dis oui, mais enfin le nom qu'elle se donne à elle-même c'est servante. Ah oui, mais c'est pas une servante. J'ai dit une servante quoi ? Avec une serpillière qui pas ou une panos, hein, comme on dit ici, qui c'est ça qui vous dérangerait le mot servante ? Je ne sais pas. Bon, ben, je dis si vous ne savez pas, rejoignez votre groupe et essayez d'ouvrir la Bible. Mais voyez, très vite on peut. Parce que l'inverse de la vie, c'est l'idole. L'idole, c'est quelque chose, une parole, un être, une conception qui est à mon image et c'est dans mes normes. Donc là, ces gens d'une bonne société catholique, plutôt aristocratique, voulaient que la Vierge échappe un peu à cette ambiance de servante, la servante du Seigneur. Oui, attention, c'est une reine. Bah oui, mais elle s'appelle pas reine, elle s'appelle servante. Et on va commencer pour vénérer la Vierge à écouter ce qu'elle dit. C'est quand même mieux. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens comme ça qui, bon, on laisse Dieu, Jésus et la Sainte Vierge tranquille parce qu'on sait quand même mieux qu'eux-mêmes ce qu'ils sont et ce qu'il faut dire d'eux. Ça arrive souvent. Mais voyez, dans un milieu où le groupe dominant est un groupe qui a le pouvoir, ben, il vous conduit à la croix rapidement. Ah, tu peux pas dire ça, non, là tu changes. La croix est là. Mais cette croix, et c'est ça que le Christ met en lumière, ça n'est pas la fin. Justement, c'est le chemin pour entrer au royaume, dans le royaume. Je voudrais dire une dernière chose. Est-ce que j'ai encore 5 minutes ? Oui. Bon. Vous êtes fatigué et affligé. Mais ce Christ en croix, et notamment dans l'évangile de Luc, vous savez, qui fait entrer ce larron, comme on dit, ce bon larron avec lui. Moi, je le prie, hein, le bon larron, régulièrement. Je me dis là, son dossier de canonisation est impeccable. C'est Jésus qui l'a fait, donc c'est bon. Lui, on peut... Voilà, je le prie pour les causes désespérées. Et ça marche, quelquefois. Et donc, voyez, Jésus... Il est, et l'ambiance hein, du texte de Saint Luc, de le Christ crucifié qu'on va célébrer aujourd'hui, approcher aujourd'hui et si possible s'identifier à lui. Pour Saint Luc, c'est un fruit. Vous savez que Jésus, dans l'évangile de Luc, il est toujours appelé fruit. La première personne, le premier être humain dans l'évangile de Luc qui donne un nom à Jésus. Alors, il y a d'abord l'ange de l'Annonciation, il y a Marie. Mais le premier être humain qui donne un nom à Jésus, c'est Élisabeth qui accueille Marie enceinte. Et elle lui dit « Béni soit le fruit de ton ventre ». Jésus, c'est un fruit. Et il va avoir une vie de fruit. C'est-à-dire, le fruit, c'est dans la Bible, hein, tout ce que les humains et Dieu produisent ensemble. Hein, c'est un terme très important. C'est le premier mot que Dieu dise aux humains. Hein, Genèse 1, verset 28, je crois. Premier mot que Dieu dise aux humains, c'est « fructifier ». Ce qu'on a longtemps traduit par « croissez, multipliez-vous », bon, à des périodes où il fallait remplir la terre de petits catholiques, mais ce n'est pas ce que dit Dieu, c'est « fructifier ». Et le fruit, c'est ce que l'on produit, ce que les humains produisent quand ils sont enracinés en Dieu. C'est le fruit d'eux-mêmes et de Dieu conjugué. Et ça peut être mille choses. Mille choses peuvent être fruits, une parole juste, une vérité, un geste, un engagement. Voilà, qui est fructueux. Et donc Jésus, c'est un fruit depuis le début. Vous savez, quand il va à Jéricho, il fait une récolte de fruits. Il y a Zachée dans un arbre et lui dit, hop, il va le cueillir, en quelque sorte, pour dire, mais il faut que j'aille dans ta maison. Et c'est fructueux. Zachée comprend qui est Jésus, il est reconnu. Pourtant, les gens n'aimaient pas Zachée, mais bon. Et Jésus en croix, dans l'évangile donc de Luc toujours, s'est présenté ses croix comme des arbres avec ce fruit de vie qu'est Jésus qui emmène ou qui suscite un nouveau fruit avec lui, le type crucifié à ses côtés, et qui lui dit, et c'est la seule fois qu'il y a ce mot dans les évangiles, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Le paradis, c'est le jardin des arbres à fruits. On le sait, c'est la seule fois qu'on emploie dans les évangiles, les quatre évangiles, le mot paradis. Donc, c'est fructueux, voilà. Et là aussi, vous voyez, la notion de fruit, de fructification, ça va à l'encontre de ce qu'on pourrait dire, ah, porter du fruit, c'est avoir beaucoup de monde. Bah, regardez Jésus en croix, tout le monde le houspille à ses pieds en disant « mais sauve-toi toi-même si vraiment t'es le fils de Dieu ». Les disciples, ils se sont échappés depuis deux jours. Et le seul compagnon de route à côté de lui, c'est un type crucifié pour des bonnes raisons, apparemment, comme il le dit lui-même. Vous voyez, donc, on n'est pas dans des images toutes faites. C'est pas « bah oui, pour aller à Jésus, il faut être ce qu'on est ». De vivre, de porter la vie, de porter du fruit d'une manière ou d'une autre. Et voyez, et c'est ça que le monde peut reprendre en disant « mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, ah non, et puis comme mes bons chrétiens qui n'étaient pas contents qu'on parle de Marie comme servante ». C'est elle-même qui a commencé, donc autant suivre ce qu'elle dit. Non, non, il faut l'appeler reine. Ben, peut-être au bout d'un moment, mais d'abord, entrer dans ce que la parole nous dit. Et voyez, je crois que c'est ça Jésus. Il est venu redire ce que dit la parole de Dieu depuis toujours, c'est-à-dire la vie donnée, la promesse de vie, et la collaboration avec Dieu, être enraciné dans la terre de Dieu pour, avec lui, par lui, en lui, porter du fruit. Ça n'a pas plu à certains, mais, et je vais terminer là-dessus, en le mettant en croix, ils ont fait la plus belle image qui soit. Ils ont mis Jésus comme fruit sur un arbre en bois, et un fruit qui amène un autre fruit aujourd'hui avec moi au paradis. Et ça, c'est la grande victoire, c'est-à-dire quoi qu'il arrive pour les justes de ce monde, dont la parole dérange, dont l'être même dérange, eh bien, ils vont toujours vers la vie. Et ce Jésus en croix, fruit d'un arbre qui n'a pas fini de porter du fruit, déjà l'homme crucifié à côté de lui, et puis, si nous le voulons, nous tous fructifions avec lui. Amen.